Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une émission spéciale avec Crypto On-Chain Sapiens qui va nous parler justement de l'analyse on-chain et ça sera une récurrence en termes d'émissions par la suite qu'on retrouvera deux fois par mois avec tous les petits insights qui vous permettront de décortiquer au mieux comment se comportent justement les participants au marché crypto et surtout sur Bitcoin, puisque l'analyse on-chain nous permet véritablement d'aller mesurer un peu ce qui se passe au niveau du comportement des foules, des wallets, de voir est-ce que les gros portefeuilles sont en train d'accumuler, est-ce que les petits sont en train de vendre et les particuliers de paniquer ou d'être en zone d'euphorie. Et donc, c'est tout ça mélangé que nous permet de voir donc l'on-chain. Et aujourd'hui, notre expert donc Crypto Sapiens, Adrien, qui va partager le micro avec nous. Je te laisse te présenter en quelques mots, nous dire depuis combien de temps tu fais ça, où l'on peut te trouver, et on va échanger comme ça ensemble autour du sujet pour apporter à notre auditoire bon nombre de petites informations.
Ça marche, bah merci à toi CM. Bah écoutez, bonjour à tous. Comme CM m'a présenté, donc Crypto Sapiens ou Adrien pour ceux qui me connaissent, c'est vrai que je suis présent sur YouTube, sur ma propre chaîne qui porte mon même nom. Je suis également présent sur X aussi, comme CM. Et écoutez, bah ça va faire bientôt, j'étais en train de calculer, du coup, on est plus très loin des bientôt 2 ans que je pratique en tout cas cette passion, mais qui est aussi finalement mon métier de l'analyse on-chain, où comme tu l'as très bien expliqué, l'objectif c'est vraiment de comprendre ce qui se passe dans la tête et dans le comportement des investisseurs. Je pense que comme beaucoup, c'est toujours difficile aussi de naviguer sur ce marché. Parfois, on manque d'informations, parfois on en a trop, parfois on a un peu tout et n'importe quoi qui se dit aussi sur les réseaux. Donc le but là, c'est vraiment de revenir un peu aux fondamentaux, c'est-à-dire à celui du comportement humain. Et globalement, si évidemment il y a des whales, des gros portefeuilles ou de la smart money qui commencent à vendre massivement, généralement on a envie de faire pareil, parce que nous aussi on a envie de prendre ses profits et pas être forcément le dernier dindon de la farce à rester à acheter un potentiel top de marché. Donc globalement, c'est exactement ce que l'on va voir. Là aujourd'hui, on va parler de quelques indicateurs. On va faire au mieux pour les expliquer à chaque fois et être le plus simple possible pour que vraiment ce soit accessible à tous et le plus digeste globalement. Mais c'est vrai que je suis très content de tester et de faire ce nouveau format avec vous, puisque je pense que l'analyse on-chain a vraiment tout intérêt à se déployer dans la compréhension et dans la tête de tout le monde, puisqu'encore une fois, ça nous aide fortement à vraiment essayer de comprendre ce qui se passe. Évidemment, ce sera pas de conseil en investissement, et vous le savez également, c'est pas non plus une boule de cristal, sinon tout le monde y arriverait, tout le monde serait millionnaire, et ça serait joli, mais on va faire le mieux pour vous guider en tout cas sur ce qui se passe sur ce marché.
Top. Et en attendant, on a affiché à l'écran Glassnode, qui est un des principaux sites sur lesquels vous pourrez retrouver notamment différents indicateurs qui justement vous permettront d'y voir un peu plus clair pour l'on-chain. Tu as des sites, toi, qui sont peut-être un peu plus avancés, et notamment, je sais que Glassnode, on passe très vite sur des trucs payants qui ne sont pas donnés. Donc, c'est sûr que bon, la gratuité a quand même des limites assez rapides. Et d'ailleurs, en guise d'introduction, tout à l'heure, juste avant de lancer l'émission, je te disais que par exemple là sur la page principale de Glassnode Studio, on voit qu'aujourd'hui on a quasiment 98% des bitcoins qui sont en profit, et ça c'est quelque chose dont on parle très rarement sur les réseaux sociaux, et pourtant ça a un impact assez colossal, puisque à partir du moment où quasi 100% du supply qui est circulant en bitcoin aujourd'hui est en profit, bien entendu qu'il y a beaucoup de portefeuilles qui vont commencer à vouloir en prendre des profits, et c'est ce qu'on verra tout à l'heure probablement au niveau de ce qu'on qualifie de cohorte, c'est-à-dire comment se comporte justement du plus petit portefeuille au plus grand, et notamment les whales avec des 100 000, 10 000 bitcoins, et ensuite on passe au niveau des échangeurs, voire des Bitcoin Treasury Company aujourd'hui avec des Michael Saylor et tout ça qui en ont, je crois, on s'approche des 500 000 bitcoins ou quelque chose dans ce niveau-là.
Donc il a franchi les 600 000, ouais, c'est ça.
J'ai pas tenu les comptes récemment, mais ça va tellement vite, c'est assez incroyable, c'est complètement fou. Donc je te propose en suite de cette intro, et pour ceux qui voudront aller plus loin sur Glassnode ou d'autres sites, on vous donnera bien entendu au fil des émissions des ressources sur lesquelles vous appuyez. Aujourd'hui, je vais partager directement ton écran et on va voir donc où nous en sommes par rapport à cette phase de marché, puisque c'est un peu ce qui finalement va animer l'automne Est-ce que Bitcoin est en train de nous faire un cycle un peu tôt sur les 120 000, 125 000? Est-ce qu'il y a encore du jus pour aller tirer 150, 180 comme certains l'ont mis en avant? On va cloisonner un minimum, on n'est pas super partisan. Je ne sais pas toi, peut-être que l'on-chain nous donnera une autre réponse, mais de dire qu'on aurait sur ce cycle un Bitcoin à 300, 400, 500 000 dollars, ça paraît un peu fou pour le coup, notamment si on se fie à une fenêtre de tir comme ça, plutôt sur la fin d'année 2025, c'est un petit peu rapide au vu de la volatilité. Et donc aujourd'hui, voilà, sur ce premier graphique, donc je te laisse la parole. Qu'est-ce que nous dit justement l'analyse on-chain en l'état de la phase où nous nous trouvons pour Bitcoin? Est-ce qu'on est plutôt sur la fin? Est-ce qu'on est sur une moyenne où on pourrait perdurer jusqu'à 2026? Ou bien, eh bien le cycle de 4 ans justement va faire son office pour cette fin 2025 et nous laissera peut-être en 2026 sur un bear market?
C'est vrai que c'est toute la question à laquelle on aimerait pouvoir répondre avec 100% de certitude. Globalement, en fait, là, ce que vous voyez à l'écran, c'est c'est la performance de Bitcoin actuelle, donc en noir, avec justement les deux précédents cycles. Donc en bleu, vous avez globalement le cycle de 2021, en rouge, rose, c'est plutôt le cycle de 2017. Et généralement, en fait, si vous voulez, les cycles haussiers depuis le précédent top, donc vraiment de soit depuis le top de 2017 à 2021 ou le top de 2021 jusqu'à aujourd'hui, en tout cas, ont toujours globalement tenu sur les 1400 jours environ. Et là, on est à vraiment une cinquantaine, voire centaine de jours maximum, donc entre 1 et 3 mois, de peut-être observer une sorte de quelque chose d'assez unique si jamais on devait continuer le cycle haussier, comme tu l'as dit, potentiellement jusqu'en 2026, puisque dans 3 mois, normalement, on serait vraiment vers le... on est au mois d'août, donc on serait plutôt vers le mois de novembre. Et si on dépasse ça, on arriverait dans quelque chose d'assez unique. Maintenant, si on devait le respecter, comme vous le voyez, généralement, on est plutôt cohérent dans cette cyclicité pour l'instant, même si on a beaucoup qui ne croient plus justement à ce cycle de 4 ans depuis l'arrivée des institutions. Mais ce qui est plutôt pas mal, c'est de voir que pour l'instant, on est vraiment dedans et ça va être assez intéressant de suivre la suite. Déjà, de base, beaucoup nous promettaient, ou en tout cas, c'était la pensée commune, de voir que l'été, généralement, il ne se passe rien sur les marchés. Bon, manque de peau pour ceux qui, justement, ont potentiellement cru cela. Mais les années post-halving, donc celles où nous en sommes, par exemple, ont toujours vu juillet-août haussier. Et pour l'instant, c'est exactement ce que l'on a. Donc, ça va être intéressant de voir si on va encore une fois faire un 3 sur 3, copier-coller ce qui s'est passé, ou plutôt rentrer dans une dynamique qui sera un peu différente. Mais pour l'instant, on est plutôt bien, donc ça va être extrêmement intéressant de suivre ça. Ce qui est plutôt pas mal aussi, c'est que vu qu'on a plutôt 2 mois d'été qui sont haussiers, c'est qu'en septembre, on a généralement, en tout cas dans ces années post-halving, des corrections qui s'amènent. Forcément, on ne va pas être haussier de nombreux mois sans s'arrêter, vous le savez. En tout cas, rien ne monte jusqu'au ciel, les arbres ne montent pas jusqu'au ciel indéfiniment, donc il faut bien que le marché se repose au bout d'un moment. Et là, donc, comme vous le voyez, en fait, ces corrections que vous voyez, par exemple, comme ici en 2017 ou même en 2021, c'était justement ce fameux mois de septembre rouge avec des corrections. Donc, voilà, on va faire attention à ce qui se passe. Encore une fois, le but, c'est d'être le plus préparé possible et d'avoir tous les scénarios en tête qui peuvent se passer dans les prochains jours et prochaines semaines.
Et donc, au niveau de la saisonnalité, c'est tout à fait confirmé. Hein. Il y a un tableau qui circule pas mal là ces jours-ci. Les 3 derniers cycles où on a fait juillet, août, l'année post-halving dans le vert, septembre était dans le rouge. Donc là, vraiment, toutes les statistiques vont en ce sens, effectivement.
Yes, si on prend ce graphique par exemple, tu as tout à fait raison. En fait, ici, vous avez la performance de BTC en fonction des mois et en fonction des années. Et c'est vrai que vous voyez 2017, hop, juillet dans le vert, août très dans le vert, septembre dans le rouge. Et ensuite, on avait une fin d'année explosive. 2021, juillet, août dans le vert, un septembre dans le rouge. Et un mois d'octobre assez explosif, même si la fin de l'année, bizarrement, était un peu moins dans le mieux pour 2021. Et là, écoutez, pour l'instant, on est plutôt sur un mois de juillet, août. Non pas explosif, mais haussier, et c'est vrai qu'on va attendre de voir ce qui va se passer pour septembre, même si évidemment, voilà, comme je l'ai dit un peu plus tôt, et comme tu l'as dit aussi également, il faut toujours faire attention à ce genre de phase, surtout qu'en plus, peut-être on t'en a déjà parlé, mais c'est vrai qu'on a des bonnes nouvelles qui nous viennent au niveau macro, avec déjà le décret signé par M. Trump du 401k, où on devrait avoir les fonds de pension américains qui devraient avoir accès aux crypto-monnaies, et en plus de ça, une probable baisse des taux qui, en tout cas, le pourcentage de probabilité augmente petit à petit, donc à voir si justement le marché ne va pas pricer un peu cela et prendre un peu à contre-pied un peu tout le monde au mois de septembre avant qu'on puisse repartir à la hausse.
Top. Et actuellement, donc, ma question suivante, c'était comment se comportent justement les participants au marché et si tu avais un graphique qui pourrait nous aiguiller, notamment sur justement les short-term holders, qui, comme tu viens d'afficher à l'écran, et comparativement aux whales qui, pour certains portefeuilles par période, ont tendance à accumuler. Il y en a même qui accumulent tout le temps. Et l'extrême exemple de ça, c'est Sailor avec MicroStrategy en termes de gros portefeuille. Mais bon, c'est un peu un modèle de fonctionnement spécifique à une Bitcoin Treasury Company. Et derrière, comment se comportent le reste des participants au marché aujourd'hui?
Très bonne question. Alors en fait, on peut le voir en, on va dire, on va le découper en trois schémas. Déjà, on avait le fait que lors du top de la mi-juillet, lorsqu'on a touché pour la première fois les 123 000 dollars, on avait beaucoup d'investisseurs, vous vous en doutez bien, qui se retrouvaient quand même massivement en profit. Et grâce justement, en tout cas on le voit sur ce tweet, typiquement ici on parle donc des short-term holders, tous ces investisseurs qui sont arrivés sur le marché, si vous voulez, il y a moins de 6 mois. Alors, eux, généralement, ce sont des investisseurs qui subissent quand même pas mal leurs émotions ou le comportement du marché, dans le sens où on va les identifier comme des personnes qui vivent le FOMO, donc la peur de manquer le train, qui vont généralement acheter la hausse et potentiellement le top, et ceux qui subissent le FUD, c'est-à-dire que forcément, quand on achète le top, au bout d'un moment, on se retrouve très rapidement dans le rouge lorsqu'il y a une même petite correction. Et donc, ces investisseurs subissent le FUD, et généralement vendent ta perte de peur que le marché se casse encore plus la figure. C'est exactement ce que veut dire ce tweet. Lorsque nous étions sur les 123 000 et finalement début août, on était retombé sur les 112 000, donc ce n'est pas encore catastrophique, hein. On était quand même sur 8 à 9% de correction, très loin de ce qu'on pouvait vivre en 2017 où on avait des moins 30% à foison. Mais pour autant, comme on le voit en fait sur cette image, les investisseurs, comme vous le voyez, en fait sur ce ratio, en vert, c'est des prises de profit, donc vraiment, ils sécurisent leurs gains. Et en rouge, à l'inverse, c'est des prises de perte. Alors, c'est très bref, mais en fait, si vous voulez, c'est un peu un pattern copier-coller de ce qui s'était passé, on va dire, à la début juin, fin juin, il me semble, lorsque justement, on était passé sous les 100 000 dollars et qu'on avait touché brièvement les 98 000 dollars après le top des 112 000 dollars du mois de mai. Et là, en fait, on a refait le même pattern. C'est-à-dire que vraiment, on voit très bien que les investisseurs, en fait, avaient FOMO le top, avaient acheté pas loin, de, en tout cas au-dessus des 120 000 dollars, se sont vite retrouvés légèrement en perte et ont vendu ici avec des pertes malheureusement. Mais c'est un peu, j'ai envie de te dire CM, le comportement un peu classique dans le sens où nos émotions nous font faire quand même un peu n'importe quoi, soit justement acheter le top et peut-être vendre dans la peur malheureusement, alors que pour les investisseurs un peu plus aguerris, c'est justement ces moments-là où nous, on va plutôt vendre lorsqu'il y a beaucoup de prises de profit également, et par contre, on va acheter lorsqu'il y a, à l'inverse, des ventes à perte. Donc, on achète un peu, comme on le dit très souvent, on achète le sang dans les rues, et là, c'est exactement ce qui s'est passé, en tout cas, ces derniers jours, avant qu'on repasse justement sur, au-dessus des 120 000 dollars il y a de ça quelques temps. D'ailleurs, c'était justement en fait ce dont je parlais sur un poste de Block Unity, là où je travaille également. C'est sur cet indicateur où on voyait très bien, si vous voulez, ces petits pics ici, c'est lorsqu'il y a beaucoup de nouveaux investisseurs qui arrivent sur le marché, proportionnellement aux anciens, à la Smart Money, aux Whales, etc. Et en fait, on le voyait bien, à chaque fois qu'il y a une sorte de pump BTC qui reprend des couleurs, ils arrivent. En tout cas, peut-être pas massivement, pas autant massivement qu'on pouvait le voir par deux fois en 2024, mais en fait, ils arrivent quand même en grand nombre. Et par contre, à chaque fois qu'il y a une correction, eh bien, ils s'en vont. Et en fait, pourtant, c'est un peu dommage parce que c'est justement là que les meilleures opportunités se créent. Par exemple, si vous aviez acheté autour des 112 000, 113 000 dollars sans vouloir chercher le bottom parfait, aujourd'hui, vous seriez quand même bien en profit. Et ça, c'est quand même le but. Acheter bas pour vendre haut. Et malheureusement, c'est là, à chaque fois qu'il y a une correction, que les investisseurs quittent un peu le navire. Mine de rien.
Et là, ce qui est intéressant avec ce que tu nous présentes, c'est que c'est de la data qu'on peut observer on-chain et ce n'est pas un simple graphique sur TradingView de l'action de prix du Bitcoin. Et on vient mesurer vraiment comment se comportent les gens d'un point de vue des transferts on-chain, des ventes, des achats. Et comme tu le dis, surtout, on peut mesurer qui est en gain et qui est en perte et qui vend un peu dans la panique. Et ça, c'est très intéressant parce que sur le graphique que tu montrais à l'instant, on voyait très bien aussi la période de avril 2025. Donc, c'était cette année au moment des tarifs de Trump. Et là, on était vraiment passé très, très bas. Et ça a cumulé plutôt pas mal du côté notamment de la TradFi avec un S&P 500 qui avait perdu, je ne sais plus, 20-25% et le Nasdaq, on devait être proche de 30%. Donc ouais, il y avait eu un bon shoot. Et ça, ça permet de aussi déceler quelque part, bah, comme tu disais à l'instant, à la fois les moments d'euphorie quand vraiment tout le monde est en train de rentrer potentiellement sur un top et les moments où tout le monde commence à vendre à perte et à jeter véritablement l'éponge. C'est des choses qu'on peut observer on-chain et qui parfois sont moins palpables sur un simple graphique. Quand on regarde le prix, voilà, on se dit à l'époque où Bitcoin était à 15 500, tu vois, on était passé sous les 20 000, on était sous toutes les moyennes mobiles, dont la moyenne mobile 200. L'analyse technique, on commençait un peu, tu vois, à être un peu paumé vis-à-vis de tout ça. Il y en a beaucoup qui disaient plutôt les 10 000, 12 000 dollars et finalement, bah, on s'est arrêté un peu au milieu de nulle part à 15 000. Et c'est là où je pense que l'analyse on-chain a véritablement une carte à jouer autour de tout ça, puisque cumulativement à une analyse technique ou parfois on avance un peu à l'aveugle dans ces entre-deux phases entre bah, les moments d'extrême euphorie et les moments d'extrême peur, ça permet de vérifier on-chain comment sont en train de se comporter justement les différents participants au marché et de recouper ces datas pour être un peu plus serein sur ces prises de position.
Tout à fait, exactement. C'est vrai que ça aurait pu pas mal aider. En plus, l'analyse on-chain n'a vraiment pas pour but de remplacer ou de surperformer l'analyse technique traditionnelle. Les deux se complètent merveilleusement bien. D'ailleurs, c'est pour ça qu'avec avec Alex, mon collègue au sein de l'académie, que justement on tient tous les deux, entre guillemets, en fait, on se fait des lives en duo, puisque finalement, à chaque fois, on trouve des concordances avec ce que lui peut voir en analyse technique et ce que moi, je peux repérer au niveau on-chain. Et à chaque fois, en fait, on remarque que l'un répond vraiment à l'autre, dans le sens où à chaque fois, dans tous les cas, ça répond, si vous voulez, à cette même problématique de savoir ce qui se passe sur un marché, parce que les deux répondent finalement au comportement des humains, que ce soit parce qu'on trace un graphique de Fibonacci ou parce que l'on comprend que tout d'un coup on revient sur un niveau où il y a beaucoup d'accumulation au niveau on-chain, bah finalement en fait ça revient un peu au même. Et c'est pour ça que c'est extrêmement pertinent d'utiliser l'analyse on-chain pour vraiment essayer de comprendre. Encore une fois, ça va pas nous aider à trouver un bottom ou un top exact, mais à chaque fois on est vraiment capable de pouvoir déterminer s'il y a une zone de surchauffe. Est-ce que Bitcoin est surévalué? Est-ce que Bitcoin est sous-évalué à l'inverse? Et donc, généralement, on sait qu'on achète en tout cas des zones où on vend sur des zones qui sont propices soit à un retournement baissier ou haussier. Et c'est vrai que c'est ça aussi tout l'intérêt de l'analyse on-chain. En tout cas, c'est pour ça que je m'y suis mis. Parce que typiquement, pour mon histoire personnelle, en 2021, c'était la première fois que j'investissais de ma vie. Je m'en suis très mal sorti parce que je suivais juste tout et n'importe qui sur les réseaux. Et malheureusement, en fait, globalement, on cherchait un peu le sensationnalisme. On cherche à chaque fois le clic, la hype. Et on n'est pas dans le tangible. On n'est pas dans quelque chose qui est factuel. On est plus sur le ressenti des gens. Donc là, le but, c'est vraiment de mettre de côté nos biais, qu'ils soient haussiers ou baissiers ou peu importe, et vraiment essayer de se baser sur du factuel et de voir ce que nous disent les données et surtout le comportement des groupes d'investisseurs sur le marché. Donc ça, tout à fait. Typiquement, si on reprend par exemple le graphique en fait que l'on a vu sur ce tweet ici, donc qui est ce fameux SOPR, on voit très bien que ici, par exemple, lorsqu'on a touché les 98 000 dollars fin juin ou qu'on ait touché ici les 111-112 000 dollars début août, on voit très bien que les investisseurs ont bien vendu à perte. Si on avait acheté ces niveaux-là, bien là, on aurait fait quand même une belle performance en passant de 98 à 123 ou ici en passant de 111 à 122, justement, il y a de ça maintenant 48 heures. Donc globalement, ça nous sert vraiment à essayer de savoir quand est-ce qu'il faut potentiellement trouver ces zones de vente, comme ici par exemple fin 2024, où on a touché justement pour la première fois les 100 000 et même les 108 000 dollars. Mais comme vous le voyez, il y a eu tellement de prises de gains que ça nous aurait aiguillé sur le fait que, ok, peut-être que moi aussi, je vais les prendre. Et peut-être que justement, je ne vais pas laisser mes émotions me dire que « Ah, mais on peut peut-être aller plus haut. » Oui, il y a des probabilités qu'on y aille. Mais évidemment, il y a aussi de fortes probabilités qu'on corrige. Et c'est exactement ce qui s'est passé à la longue. Comme en fait, Bah, en tout cas, on en a parlé. Ici, est-ce que c'était une zone de bottom? Tout le monde capitulait, vous le voyez ici en rouge, beaucoup de ventes à perte. Peut-être que de mon côté, je vais re-rentrer dans le marché. Et hop, globalement, ensuite, on observe, tant qu'on reste dans ce schéma haussier, en tout cas, bah, que ça aurait pu nous faire des gains assez massifs. Donc en fait, c'est globalement ça qu'on veut essayer de trouver, tout en étant conscient qu'évidemment, on ne peut pas trouver à chaque fois le top exact, je le répète, évidemment.
Oui, finalement, c'est un fonctionnement un peu analogue à ce qu'on peut observer du côté du RSI pour l'analyse technique avec l'hebdomadaire, le mensuel, etc. Ça donnera jamais un point parfait de sortie. Comme tu l'as dit, on peut continuer de monter et des fois dans des proportions quand même assez conséquentes, même après avoir vendu. C'est là où aussi il faut savoir rester humble et se fixer des objectifs qu'on va respecter au travers du temps. C'est le plus difficile de vendre plus que acheter. Acheter, n'importe qui peut acheter tout et n'importe quoi. Mais une fois qu'on a des gains et parfois des gains importants, bah c'est vrai que vendre en se disant « ouais, mais peut-être demain, ça va faire encore plus 50% », c'est un peu les nœuds au cerveau qu'on a tendance à se faire. Donc en effet, quand on cumule ce genre de data on-chain à un tout petit peu d'analyse technique ou pour ceux qui ne font pas d'analyse technique, au sentiment que vous pouvez retirer des réseaux sociaux, si tout le monde est en train de vous vendre la lune, que vous voyez des belles montres, des belles voitures et tout ce qui s'ensuit, voilà, vous savez qu'on est arrivé un peu au point extrême euphorique. C'est clair. Et de même, quand on a un apaisement absolu, que plus personne ne parle sur les réseaux sociaux, que les médias ne publient plus que un ou deux tweets par jour ou des trucs comme ça, eh bien, quand on observe en effet les pics de désintérêt et de vente à perte on-chain, on peut délibérément se dire que voilà, on a un point d'entrée qui est somme toute intéressant. Ça ne sera pas le point bas ultime, mais ça nous permet de rentrer à bon compte pour 1, 2, 3, 4 ans et de surfer la vague jusqu'au prochain point haut de surchauffe.
C'est ça. Bah, globalement, regarde, si on prend le bottom de 2022, même si par exemple, on n'avait pas potentiellement réussi à investir au bottom parfait aux 15 000, que l'on ait acheté aux 15 ou aux 20 000, globalement, on s'en serait très bien sorti. Et en fait, typiquement, le but, c'est d'être dans le train. Le but, c'est vraiment pas de timer le marché, de vraiment être soit 100% out ou 100% in, mais vraiment de se dire, OK, peut-être qu'ici, par exemple, je prends mes profits progressivement et globalement, ensuite, se dire, voilà, s'il y a une correction, je pourrais la racheter. Et puis, il me restera peut-être un petit pourcentage si jamais on devait aller plus haut. Mais il y a toujours, en fait, cette sensation où il faut aussi savoir, par exemple, de quoi je pense, déjà, de base, se poser la bonne question, quel est notre propre horizon de temps d'investissement? Si vous avez un objectif à Bitcoin ou à Ether, un Ether à 10 000 et un Bitcoin à 1 million, bah, dans ce cas-là, une petite correction ne vous impacterait pas. Mais évidemment, si votre objectif, c'est, ou alors si vous avez déjà fait pas mal d'argent, peut-être que prendre des profits, c'est toujours intéressant. Et en fait, typiquement, on a des indicateurs, que ce soit technique ou on-chain, qui sont vraiment pertinents pour s'en sortir. Typiquement ici, beaucoup de prises de gains. Et en plus, on verra un graphique un peu après, mais on a des indicateurs qui nous permettent de voir quand est-ce que le marché est clairement en surchauffe et sur quel niveau on peut s'arrêter. Moi, ce qui est pas mal de mon côté, c'est que j'ai plutôt des cibles comportementales de prix, et pas forcément des cibles, voilà, je m'arrête à 150 et à 150, je prends mes gains. Non, dès que je vois que les investisseurs vendent trop, typiquement, je sais que je vais être là à me dire, OK, bah, je vais peut-être faire pareil, puisque on va créer ce déséquilibre entre l'offre et la demande, et au bout d'un moment, la demande ne pourra plus suivre sur le marché. D'ailleurs, c'est ce qu'on voit avec ce type d'indicateur qui s'appelle, donc ici, je suis sur la plateforme de BlockUnity, qui s'appelle justement le Value Days Destroyed Multiple. Alors, c'est un nom anglais qui nous montre, si vous voulez, qui nous fait un peu le calcul. Lorsqu'il y a beaucoup de très vieux coins qui sont dépensés, donc vraiment qui sont vendus sur la blockchain. Et globalement, bah comme vous vous en doutez bien, mais plus ici on a des grands pics rouges ou oranges, et plus il y a de très vieux coins vendus. Donc là, dites-vous que c'est des investisseurs qui ont peut-être acheté du Bitcoin il y a 10 ans, il y a 5 ans, qui les ont achetés à des prix ridicules, qui prennent leur profit aujourd'hui. Et forcément, quand il y en a beaucoup qui font ça, qui agissent de la sorte, on va créer ce fameux déséquilibre sur le marché. Et donc, regardez, chaque pic correspond au précédent, en tout cas top locaux sur ce marché, ici en mars 2024, ici en novembre-décembre 2024, et ici au dernier ATH de juillet. Et depuis, à chaque fois, ça se réinitialise un petit peu, dans le sens où les investisseurs ont pris leurs gains, ça y est, maintenant, ils vont attendre que ça corrige un peu, ils vont potentiellement recharger si le prix les intéresse, et ils vont revendre, encore une fois, quand justement le prix sera de nouveau intéressant pour eux. Donc là, peut-être qu'il faudra peut-être attendre les 130, 140 000 dollars avant de revoir des prises de profit massives de leur côté. C'est peut-être contre naturel ou contre-intuitif, mais en fait, on est obligé d'avoir des vendeurs même quand le prix explose à la hausse. Puisque pour chaque acheteur, il faut bien qu'il y ait un vendeur derrière. Ce n'est pas les plateformes qui vont vous vendre leur BTC. C'est vraiment des investisseurs comme vous et moi, ou comme les institutions qui ont investi il y a 6 mois, qui ont investi il y a 5 ans, qui vont prendre leurs gains. Et au bout d'un moment, lorsqu'il n'y aura plus assez d'acheteurs, ces vendeurs vont se calmer, mais il n'y aura plus personne pour soutenir le prix. Et c'est à ce moment-là que ça va se casser un peu la figure, etc. C'est pour ça que ce type d'indicateur, par exemple, si je zoome vraiment sur la période qui nous intéresse, peut nous donner des indications lorsque justement on est trop chaud. Je me souviens qu'au sein de l'académie, par exemple, j'avais annoncé lors du live du 11 décembre 2024, je le ressors souvent au membres parce que c'est ma petite fierté, mais en fait le but c'est pas forcément d'avoir raison ou tort, puisque là ici par exemple j'avais annoncé aux membres que pour moi je voyais un top local ou un début de surchauffe sur le marché. Pourtant entre guillemets on en était loin, je l'avais annoncé lorsque BTC était autour des 100 000. On est monté vers les 108 000 je crois, à la mi-décembre, ensuite fin janvier, pareil. Bon, globalement, ensuite, il n'y avait pas, comment dire, c'était vraiment une zone qui était intéressante de prendre ses gains, parce qu'ensuite, on a vraiment corrigé de plus de 30%, etc., etc. Là, typiquement, fin juillet, on avait cette zone des 123 000 dollars qui était en vue, pareil, au niveau on-chain, et globalement, je leur ai dit, bah là, typiquement, j'avais fait un post, là, je prends des profits, puisqu'on revient à un nouveau palier où le marché est en surchauffe. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment de prendre des gains. C'est pas forcément de me retrouver coincé dans un top et de me dire « Ah, c'est pas grave, je vais re-attendre un mois ou deux que ça remonte. » Je fais un peu de la gestion active de mon côté, même si, par exemple, mon horizon de temps est très long terme. Mais vu que mon but, c'est d'accumuler le plus possible de BTC, de fractions de BTC, hein, si je pouvais en accumuler des BTC un par un, ce serait sympa, mais des fractions de BTC pour qu'au final, je puisse en avoir le plus possible le jour où ça atteint un certain niveau de prix. Et là, c'est globalement ce que l'on voit ici, c'est quand est-ce que les investisseurs vendent massivement. Typiquement.
Et à aujourd'hui, là, en fonction des indicateurs qu'on vient déjà de voir, ou tu l'as peut-être en tête, puisque je pense que c'est un truc que tu regardes régulièrement, le prix justement moyen ou le support on-chain, il se trouverait où en termes de fourchette par rapport aux investisseurs actuels et notamment à ceux qui sont rentrés là les derniers, quelle serait la zone au final où ça accélérerait un peu le fait de vendre justement en perte?
Ouais, c'est extrêmement intéressant comme remarque. En fait, on a ce qu'on appelle par exemple ici un nuage de prix. Ce nuage de prix, il n'est pas basé sur des calculs savants ou des choses un peu bizarres. C'est vraiment calculé en fonction du... Voilà. Historiquement parlant, à partir de quel pourcentage de profit latent, donc vraiment ce qu'on a par exemple tous sur, je sais pas, CoinGecko, où on voit notre portefeuille virtuel, entre guillemets, à dire, oh, regardez, je suis en x2, je suis à plus 30%, je suis en x5, peu importe. À partir de quel moment, historiquement parlant, dans toute l'histoire de BTC, il y a eu des grosses prises de gains. Et ce nuage se base dessus. C'est-à-dire que dès qu'on va atteindre certains niveaux de prise de profit, on a certains niveaux de prix qui vont être intéressants à surveiller. Donc à chaque fois, voilà, le nuage vert, c'est le premier palier, bleu, orange et rouge, l'extrême euphorie. Et ce qui est plutôt pas mal, c'est que regardez ce qu'on voit sur les deux précédents tops, c'est qu'à chaque fois, en fait, bah, il y a certains niveaux qui se respectent. Par exemple, un gros top avec l'arrivée des ETF, celui qu'on a eu au mois de mai, on avait quand même atteint le nuage rouge. Donc en fait, on savait que globalement, on était vraiment dans une zone de grosse surchauffe. Encore une fois, comme vous le voyez, il avait commencé aux 62 000 dollars, il s'est arrêté aux 73. Ça ne dit pas un top exact, mais une zone vers laquelle ça peut être intéressant de prendre des gains. Et ce qui est plutôt pas mal, c'est que vous le savez, un top n'arrive pas du jour au lendemain en ligne droite et ensuite on se casse la figure totalement. Ce temps est révolu, le marché il pèse quand même 10 fois plus lourd que 2017, donc on est sur des zones où ça prend, comme vous le voyez, plusieurs semaines. Idem ici, sauf que là, on n'est pas forcément allé dans l'extrême euphorie, on s'est arrêté sur le début du nuage jaune. Pareil, on l'a atteint pour la première fois le 13 novembre aux 92 000 et on est monté jusqu'au 108 000 à peu près. Et là, pour l'instant, bah comme vous le voyez, pour l'instant, on n'a pas encore eu de hausse digne qui mette vraiment le marché en surchauffe, en surévaluation. Par contre, c'est vrai que comme vous le voyez, on a atteint ce début de nuage bleu au mois de mai, on a corrigé. On a atteint ce début de nuage bleu en juillet aux 123 000, on a corrigé. Et là donc, ça nous montre en fait, et c'est pour ça que je l'avais annoncé justement à la mi-juillet aux membres de l'académie, c'est que c'était une première zone de prise de profit extrêmement intéressante, puisque historiquement parlant, ce sont des zones où les investisseurs prennent leurs gains eux aussi. Et avant d'attaquer sur la prochaine cible, quand on regarde par exemple ici, ça c'est en termes de valeur USD, donc en dollars, les prises de profit qui sont pris, par exemple, le 17 juillet, on a eu une journée à 2 780 millions de prises de profit en une journée, par exemple. Ça correspond, comme par hasard, hop, à cette zone-là où on avait atteint ce premier palier où, historiquement parlant, on savait que beaucoup d'investisseurs allaient prendre leurs gains. C'est mécanique et c'est extrêmement intéressant. Donc là, pour l'instant, où est-ce qu'on pourrait aller dans les semaines à venir si jamais on devait, en tout cas si le scénario devait être haussier? On aurait déjà la zone des 124 000, qui est plutôt pas mal, qui est pas très loin hein, finalement, mais ça peut nous indiquer que là aussi, pas mal d'investisseurs vont prendre des gains. Et ensuite, on a ce gros nuage bleu que j'aimerais fortement atteindre, puisque au moins en novembre et surtout sur toute la hausse de début 2024, on l'avait atteinte, se situerait forcément entre les 124 et les 141. Alors, globalement, on a d'autres indicateurs qui permettent vraiment de pouvoir trouver des convergences entre certains niveaux de prix. Et globalement, moi, j'espère vraiment au moins atteindre les 130 pour vraiment être dans ce nuage bleu pour avoir ce premier début de surchauffe. Et ça, c'est plutôt pas mal. Donc, on va déjà se baser dessus. Si on dépasse les 124 000 dollars, dites-vous qu'on a vraiment tout le champ libre pour vraiment aller au moins sur cette zone des 130-140 000 dollars potentiellement. Donc ça, c'est vraiment si on a une belle jambossière qui nous attend. Peut-être pas au mois d'août. Évidemment, je n'ai pas de boule de cristal. Peut-être qu'on va attendre cette fameuse correction de septembre, si elle arrive elle aussi, pour qu'ensuite, on aille beaucoup plus haut. Encore une fois, ce qui est plutôt bien, c'est que plus on attend, plus on prend le temps aussi de laisser les investisseurs prendre leurs gains. Et plus, en fait, on a un marché qui s'assainit. Et qui, si vous voulez, c'est un peu cette métaphore que j'utilise sur ma propre chaîne, c'est comme si vous étiez un sportif de haut niveau qui faisait du saut en hauteur. Pour sauter haut, il est obligé d'avoir l'équipement le plus léger sur lui. Il ne va pas mettre une veste en jean, un pantalon extrêmement lourd, des baskets qui ont une semelle épaisse comme ça, etc. Il est obligé d'avoir l'équipement le plus léger pour sauter le plus haut possible. C'est exactement le même scénario sur les marchés. Il faut absolument laisser les investisseurs prendre leurs gains, sortir par peur, être méfiant, ne pas forcément rentrer dans le marché trop vite, etc. pour que ensuite, lorsque la hausse elle arrive, on puisse monter très haut. Et ça va vraiment être ça en fait qu'on attend. Donc peut-être qu'on va vivre comme ce qu'on a vécu au mois de mai, avec cette première surchauffe qu'on avait eue fin mai. Ensuite, on avait eu plusieurs semaines de consolidation avant d'exploser vers ce nouvel ATH. Et là, pour l'instant, c'est ce qu'on a eu depuis la mi-juillet. Pareil, consolidation, consolidation, correction, et on verra si on va dépasser ce fameux palier des 124 000 dollars environ.
Très intéressant, et puis ça démontre aussi, quand j'ai vu que tu passais le curseur tout à l'heure jusqu'en haut, que quand bien même on aurait eu une extrême euphorie, ça nous amènerait quelque part entre 160 et 175, 180, quoi, grosso modo, si vraiment on re-atteignait cette zone de méga rouge. Donc on voit que même à aujourd'hui, quand on observe un petit peu le on-chain, on n'est toujours pas sur des objectifs à 300, 400, 500 000, ou ce qu'on peut observer quoi, du côté des réseaux sociaux qui est un peu déraisonnable quoi, en termes de proportion. C'est vrai que des fois, quand on en parle, même sur la chaîne ou voilà, sur les réseaux, il y a des gens qui ne comprennent pas pourquoi. On se dit que on est quand même relativement cloisonné en termes de bornes. Et c'est vrai que de temps en temps, la spéculation, on le voit même au niveau des actions hein, sur la bourse américaine, d'un seul coup, ça peut partir. On peut avoir quelque chose qui converge littéralement vers un seul sujet. On l'a vu avec Nvidia, notamment. Hein, ça a été complètement fou, le run depuis 2-3 ans. Donc oui, peut-être qu'un jour, sous des conditions vraiment extraordinaires qui viendraient se réunir tout en même temps, un peu comme on l'a eu en 2020-2021 avec le Covid, cette impression monétaire complètement folle, le monde à l'arrêt, tout le monde sur Internet, tout le monde qui veut investir et qui a trop d'argent à pas savoir quoi en faire puisque plus personne ne dépensait. Mais en attendant, à aujourd'hui, on n'en est pas là, justement, on n'est pas en 2020-like. Donc il faut composer en fonction justement des phases que l'on traverse et pour l'instant on va voir comment ça va se comporter, notamment si on a une première baisse de taux en septembre vis-à-vis de la Fed. C'est plutôt ça qui risque un peu de changer la donne. En tout cas, c'est intéressant de voir que le on-chain corrobore plutôt pas mal quelque part le cadrage qu'on peut s'en faire là aussi avec l'analyse technique.
Exactement, ouais. Et ce qui est plutôt intéressant, c'est pour en revenir à 2021, ce qui est extrêmement pertinent, c'est vrai que là, en fait, on a eu une explosion à la hausse qui a vraiment été parabolique. Sur ce cycle, on est vraiment sur hausse raisonnable, on ne va pas se mentir, elles sont quand même belles. Hausse raisonnable, il faut consolider. Hausse raisonnable, il faut consolider. Et en fait, c'est un peu le même pattern que l'on a aujourd'hui. On ne monte pas en ligne droite, mais on monte bien dans un canal haussier qui est extrêmement sain, qui se respecte pas mal. Et peut-être que finalement, l'arrivée des institutions, des fonds d'investissement, des fonds de pension, des États, en fait, on monte moins vite parce que déjà, il faut quand même beaucoup plus d'argent pour faire pour faire exploser un marché qui aujourd'hui pèse très lourd en termes de capitalisme, de market cap, comme on le dit, on est sur du 2,4 milliards. En termes de capitalisation réalisée ici, c'est-à-dire en termes on-chain, on parle de l'argent qui est mis sur le marché. En fait, comparé à la market cap où on voit chaque bitcoin vaut par exemple ici 100, je crois qu'on est aux 119 000 dollars aujourd'hui.
Oui.
Eh bien, au niveau de l'on-chain, on voit chaque bitcoin qui vaut la valeur à laquelle chacun a été acheté. C'est-à-dire que si un bitcoin a été acheté il y a 10 ans à 2 dollars, le bitcoin vaut 2 dollars sur la blockchain. Tous ne valent pas le même prix. Mais on a un marché finalement où il y a eu, globalement, depuis les débuts de BTC, depuis sa création, il y a eu plus d'un trilliard de dollars qui ont été injectés vraiment sur BTC. Pas les 2,4 comme on le dit. C'est une petite différence, mais qui fait finalement toute la différence dans le sens où, mais aujourd'hui, forcément, le marché pèse plus lourd. Donc, pour le faire monter plus vite, il faut évidemment beaucoup plus de fonds qui arrivent sur le marché. Et globalement, c'est ce que l'on voit quand même aujourd'hui. On a pas mal de rotations de capitaux. Bon, déjà, je ne sais pas si tu l'as vu, ce tweet. Donc là, ce n'est pas sur BTC, mais sur Ether, on a évidemment les ETF qui sont en train d'exploser la donne. Plus d'un milliard hier sur les ETF Ethereum. Je crois que c'était à peu près 100-200 millions sur BTC. Mais en fait, comme tu l'as dit, les trésoreries d'entreprise, bah, comme vous le voyez, depuis 2024, elles ne font qu'accumuler petit à petit du BTC. Donc en fait, on a ces arrivées de capitaux. Ça arrive, mais ce n'est pas explosif comme on pourrait le rêver, en tout cas comme en 2021. Et là, ce qui est plutôt pas mal, c'est que ici, sur ce graphe, on arrive à repérer au niveau on-chain les milliards qui arrivent sur BTC ici en orange ou ici en bleu sur Ether. Et ce qui est plutôt pas mal, c'est qu'on voit bien, les capitaux arrivent. Vraiment, j'ai l'impression qu'il n'y a pas forcément de souci à se faire de ce côté. Et on est même peut-être, mais ça sera, je pense, un autre sujet, en train d'observer potentiellement en fait ce que l'on voit ici, c'est-à-dire des investisseurs qui commencent à faire une rotation de capitaux beaucoup plus vers Ether que sur Bitcoin. Mais globalement, voilà, c'est aussi pour ça que BTC n'explose pas du jour au lendemain à la hausse. Il faut bien que les capitaux arrivent petit à petit.
Ça permettra aussi très certainement, contrairement au cycle précédent, quand on n'avait pas ces fameux ETF, d'amortir un petit peu la baisse potentielle plus tard, bien que en termes de volatilité, on l'a vu, hein, quand on est passé du premier top à 75, 78, je ne sais plus quel était le point bas, la dernière fois qu'on a eu le gros point bas, on avait quand même perdu entre 30 et 40%, donc ça n'était pas rien. Mais c'est vrai que lors d'un bear market, aujourd'hui, j'essaie de me dire que, par exemple, on a une moyenne mobile de 100 à 50 000. Si on top à 120, 130, revenir quelque part entre 50, 60, 70, ça paraît pas déconnant. Et ça ferait une baisse quand même vachement amoindrie par rapport au moins 85, voire moins 89 qu'on avait perdu sur les cycles précédents. Et moins 77 sur 2022.
En fait, ce qui est plutôt pas mal, c'est, alors je crois à cette thèse-là, mais évidemment, une thèse n'est vraie que lorsqu'elle sera prouvée, du fait que la correction ou le bear market concerné, dont on parle justement, dépendra aussi fortement de la type de dernière hausse qu'on aura. Si tout part en cacahuète, entre guillemets, qu'on monte aux 180 000 dollars en un mois et que tout explose à la hausse, évidemment qu'il faudra, j'ai envie de vous dire, une correction qui sera d'autant plus violente. Plus la hausse est violente, plus la baisse la sera aussi. Là, on est quand même passé en 2021 d'un BTC, il me semble à peu près, je crois que c'était à 3000 dollars lorsqu'on était au niveau du Covid.
Ouais, jusqu'à c'est ça, 69 000, on est venu à 3000. 3000,
bah, c'est ça, donc on a fait une hausse qui était exceptionnelle. Là, pour l'instant, on passe de 15 à 120, donc c'est aussi exceptionnel. Mais en fait, vu que ça dure dans le temps et vu qu'il y a quand même pas mal, comment expliquer, il y a quand même pas mal de prises de gains. Et comme je l'ai dit, on consolide, on latéralise, on assainit un peu le marché. Mais en fait, finalement, ce sont des ventes ici qui ne seront plus à absorber. Donc, à voir au niveau de ce que tu dis. C'est vrai que c'est extrêmement pertinent. Il faut savoir que, par exemple, le coût moyen d'achat de MicroStrategy est autour des 73 000 dollars. Ça, c'est ce qui est pas mal au niveau on-chain, c'est qu'on peut repérer ça. Et au niveau des ETF, il me semble que ce n'est pas forcément si loin que ça aussi. On est plutôt sur un coût moyen d'achat autour des 80 000 dollars. Donc, c'est pareil. On verra ce qui va se passer à ce moment-là. Est-ce qu'eux aussi vont paniquer? Est-ce qu'eux aussi vont vendre en masse? Est-ce qu'ils vont plutôt garder leur coin? Vu qu'on est sur un type d'investisseur qui est normalement plus mature, je dis bien normalement, puisque dans les détenteurs d'ETF, il y a des retail, il y a des particuliers comme tout le monde, bah forcément, on verra en fait ce qui va se passer au niveau du comportement, mais tout cela sera forcément à suivre. Et comme tu l'as dit, On peut très bien descendre sur les juste 70 000, 80 000, comme on peut aller plus bas. Il y a cette fameuse zone, en fait, dont tu as parlé, hop, qui, moi, est ici, qui, par exemple, déjà, on a le prix réalisé total de tous les bitcoins, justement, j'en parlais un peu plus tôt, acheté, il est autour des 52 000 dollars aujourd'hui. Donc, plus on avance dans le temps, plus ça va augmenter, etc. Plus il y a d'investisseurs qui achètent, plus le prix moyen va augmenter. Et globalement, aussi là, historiquement parlant, c'est à chaque fois une zone où, par le passé, que ce soit en 2022 ou 2018, on est à chaque fois allé dessus, voire légèrement en dessous. Donc, en fait, c'est une zone qu'on va surveiller. Ça va être intéressant de le voir. Ça va être très intéressant de le voir et je pense qu'on... Ce sera voilà, intéressant.
Et moi, tu peux me dire à quoi correspond la bleue True Mean Price? C'est la première fois que je le vois, donc je ne sais pas à quoi ça correspond.
Celle-là, elle est extrêmement intéressante et pertinente parce qu'en fait, la True Mean Price, c'est en fait, si tu veux, le coût moyen d'acquisition de tous les BTC qui ont été acquis ces deux dernières années, plutôt. Donc en fait, c'est plutôt les investisseurs, on va dire, actifs, dans le sens où c'est un peu, au niveau on-chain, ce dernier palier, je vais la prendre que elle, c'est en fait ce dernier support qui nous sert avant justement de basculer dans un potentiel bear market. Regardez, en 2021, on s'est arrêté pile poil dessus lors de la grosse correction qu'on avait eue lors de l'été, enfin lors de mai-juin. On s'était arrêté dessus, on était reparti à la hausse, mais elle avait tenu. Ici, avant qu'on parte, on va dire, officiellement en bear market avec tout ce qui s'est passé comme cataclysme, FTX et Terra Luna, on avait rebondi dessus, mais finalement, lorsqu'on l'a bien dépassé à la baisse, on partait en bear market. Et là, en fait, c'est un peu le même schéma. Même en janvier, on n'était pas très loin, on a rebondi dessus. En août, on n'était pas très loin, on a rebondi dessus. Là, bon, on était à quelques milliers quand même, mais on n'est pas allé la revisiter. Typiquement, c'est vraiment celle qui, par exemple, me dira, bon, ok, si on passe en dessous, combiné à d'autres indicateurs, je me dirais peut-être que là, c'est que typiquement, on part en cycle baissier. Donc, il faut absolument le surveiller puisque globalement, c'est un peu le dernier rempart au niveau on-chain pour vraiment se dire, ok, peut-être que là, c'est plus bon d'y croire.
Donc, au final, ce qui est top, c'est que ça s'aligne plutôt pas mal actuellement avec le point bas qu'on a eu là en 2025, en avril. C'est avril 2025,
c'est ça, à peu près 76. Ouais.
Donc au final, on peut considérer que 76, ça sera la zone de démarcation pour plus tard de bear market, si on y revient, et qu'au pire du pire, quelque part, bah, commencer à re-rentrer en DCA un peu agressif peut-être si un jour on revient autour de 50 000, ça serait loin d'être déconnant, et ça devrait plus ou moins correspondre à là où se trouvait Bitcoin à l'époque quand il était à 15-20 000 sur le cycle précédent, quoi.
Exactement, et c'est extrêmement intéressant que tu en parles parce qu'il y a un graphique qui le montre très très bien. Alors du coup, pour le faire très simple, ce que vous voyez, c'est des petites bandes vertes. Et plus en fait il y a des bandes vertes qui sont grandes ou des pâtés de bandes vertes comme ici, plus ce sont des grosses zones d'accumulation. Et ces grosses zones d'accumulation, plus elles sont énormes, plus ce sont des zones qui vont être défendues par les investisseurs, puisque forcément plus il y a d'investisseurs qui ont acheté ici, moins ils ont envie de voir le prix passer en dessous, parce que forcément ils vont se retrouver en perte, ces gens-là. Et donc on a une énorme zone ici, comme vous le voyez, d'accumulation, qui se situe entre les entre les 55 et les 66 000 dollars. Donc en fait, cette grosse zone-là sera très importante à surveiller, comme tu l'as dit plus tôt, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'investisseurs qui voudront défendre cette zone-là. Alors si déjà celle-ci et celle-là ne tiennent pas, donc entre les 92 globalement et les 98, puis celle entre les 102 et les 109 ne tiennent pas, bah forcément là, tu vois, on se retrouve un peu avec un vide intersidéral. Donc on ira très vite potentiellement sous les 90 si on part en bear market, mais globalement ici on aura quand même un gros support qui devrait nous servir, en tout cas seule l'histoire nous le dira, mais globalement en fait savoir où est-ce qu'il y a de l'accumulation nous servira beaucoup à savoir où est-ce qu'on peut recharger, où est-ce qu'on peut s'attendre à ce qui est quand même une sorte de support là aussi, et ça c'est plutôt pas mal.
Ouais, ben c'est très intéressant puisque je pense que faudrait vérifier pour pas dire de bêtises, mais c'est des choses qu'on peut voir aussi du côté des charts au niveau des volumes. Tu sais, il y a des gros creux de volume, il y a des endroits d'intérêt et c'est ce qui crée pour plus tard à la fois les supports et les résistances, etc. Exactement. En chartisme. Donc c'est un peu les supports et les résistances on-chain là également qu'on peut observer. Et d'ailleurs, Sur les 120K, là, on voit qu'on a du rouge récemment. T'en penses quoi de cette petite zone ici?
Alors, en fait, ceux-là, c'est-à-dire que ce sont les investisseurs, enfin, tous les BTC qui sont en perte, globalement. Okay. Donc, en fait, comme on le voit et comme tu l'as dit tout à l'heure, on est voilà, à peu près sur 98% de BTC achetés qui sont en gain. Donc, tous ceux-là sont en perte. Ce qui est plutôt pas mal, c'est de voir qu'il y a très peu de pertes, encore une fois. Et même lorsqu'on a touché les 112 000, comme on l'a dit un peu plus tôt, bon, bah, tu vois, il y avait 10% de tous les BTC de l'histoire qui se retrouvaient en perte. Mais, en fait, c'était un peu comme le même schéma qu'on avait eu en avril. En fait, on avait une zone de vide ici. Et les zones de vide, c'est un peu comme les gaps CME que l'on connaît tous en analyse technique. Il faut les combler. Et là, en fait, on avait un gap. On était passé tellement vite des 110 au globalement aux 116 000 dollars qu'à personne n'a eu le temps d'accumuler vraiment sur ces niveaux et donc de créer en fait cette zone d'accumulation qui nous permettrait d'avoir un support dessus. Et finalement, bah, passer plusieurs jours sur les 112, 113, 114 000 dollars, on s'est créé en fait ce niveau support et que potentiellement, si on devait avoir une autre correction, bah, cette zone-là, cette fois, tiendrait quand même beaucoup mieux que précédemment. Et ça, c'est extrêmement intéressant de le voir. Maintenant, ce qui est bien, c'est de voir que bon, bah, pour l'instant, au niveau du comportement du prix, il ne met pas forcément à mal grand monde. Et ça, c'est plutôt pas mal. Donc globalement, cette zone en rouge, moi, elle me dit juste que pour l'instant, il n'y a pas non plus grand monde qui en perd. Donc, le marché ne souffre pas forcément. Alors, peut-être qu'il aura envie de faire souffrir un peu plus. Ça, c'est une possibilité. Mais globalement, on n'est pas dans des conditions extrêmes de surchauffe où beaucoup de gens ont encore ces BTC-là, parce qu'en fait, il y a de ça pareil, il y a de ça deux, trois semaines, il y avait beaucoup plus de picots ici. Et en fait, tous ces gens-là, bah, forcément, ont peut-être vendu à perte, comme on l'a vu un peu plus tôt avec le SOPR, peut-être vendu à perte pour ces investisseurs qui ont racheté sur cette zone-là. Et en fait, ça, voilà, c'est un jeu du chat ou de la souris, dans le sens où vraiment, en fait, si ici, il y avait trop de FOMO, on voit qu'ils ont vendu. Et globalement, ceux qui, un peu la smart money peut-être, ou les investisseurs un peu aguerris, ont racheté sur des niveaux qui, eux, les intéressaient autour des 112-113.
Très intéressant. Et je pense que pour aujourd'hui, bah, ça nous fait un bon petit tour. Je ne sais pas si tu avais encore du graphique en RAB, mais là, on a fait un bon petit tour du propriétaire pour aujourd'hui. Et donc, ouais. Si on devait en retenir quelque chose, bah, on est déjà bien haut avec beaucoup de Bitcoin en profit, quasi l'intégralité. Mais contrario de ce qu'on pourrait penser, bah, on n'est toujours pas dans une surchauffe ou une extrême surchauffe. Et c'est plutôt encourageant. Donc, pour cet automne, tout en ayant bien en tête, comme on l'avait introduit donc sur le début de cette vidéo, que la saisonnalité donne un mois de septembre qui est peut-être un peu défavorable. Donc, il faudra rester un peu méfiant en septembre, mais si tout passe comme il se doit, on devrait quand même avoir un bel automne et peut-être, si le cycle de 4 ans est toujours tel qu'il l'est, une finalité justement autour entre l'automne et maximum fin d'année 2025. Mais bon, si on a l'accélération et l'euphorie slash alt season, j'ai peur que ça ne dure pas jusqu'en décembre. Ça sera plutôt peut-être à cheval sur octobre-novembre, mais c'est là où ça va être intéressant de voir si le timing justement du cycle de 4 ans vient à être rompu ou si de nouveau on respecte au poil quasiment jour pour jour ce qui s'est passé précédemment.
C'est ça, exactement. Et c'est vrai que comme tu le dis, 98% des BTC en gain, mais en fait, finalement, il faut aussi voir de combien ils sont en gain. S'il y en a beaucoup qui sont en gain de 10 dollars, bon, tu te doutes bien du coup qu'on ne se retrouve pas forcément dans cet état de surchauffe, comme tu l'as dit. Si par contre, ils sont tous en gain de peut-être un plus 30%, ça commence à faire beaucoup globalement. Donc en fait, c'est vrai que c'est ça qu'il faut surveiller. C'est pour ça que à la fois, c'est intéressant, mais tout reste dynamique en fonction du comportement du marché. Il faut absolument revenir sur les graphiques en fait, qu'on a vus, puisque tout n'est pas figé. Et globalement, il faut vraiment surveiller tout ça. Donc à surveiller. Soyez prêts en fait, à tous les scénarios. Ayez vraiment c'est ce que je conseille très souvent aussi, de toujours en fait, être prêt à soit à la baisse, soit à la hausse. Faut jamais partir en fait, du principe qu'on a raison à 100%. Et c'est vraiment ça le but, même avec tous les outils qu'on a, en fait, il faut être prêt à ce que le marché parfois nous prenne à contre-pied, mais qu'on soit prêt quand même dans ces situations-là.
En tout cas, super intéressant et je pense que ça aura permis à notre audience aujourd'hui de découvrir un petit peu ce qui se passe on-chain. Et comme on vous le disait en guise d'introduction, on se retrouvera tous les 15 jours pour faire un point autour de ça. Et on sera donc les premiers à pouvoir vous dire aussi, en corroborant avec l'analyse technique pour les émissions de la quotidienne, à partir de quel moment on pense justement que ça commence un peu trop à chauffer. Et on regardera donc si ça nous permet justement de nous en tirer à bon compte dans les prochains mois qui risquent d'être les mois les plus importants des 2-3 dernières années vis-à-vis de cette euphorie qui peut arriver très vite et se matérialiser un peu voilà, de façon parfois déroutante au vu de ce qu'on traverse au travers du temps pour le marché crypto. On s'y attend jamais vraiment à avoir un mois, deux mois, trois mois vraiment explosifs. Mais c'est vrai que pour ceux qui étaient là en 2021 et qui ont connu cette période, c'était complètement fou. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on essaie de se fier à des datas justement qui sont plus terre à terre et qui nous permettent, comme tu le disais tout à l'heure très bien, Crypto Sapiens, Adrien, de ne pas nous laisser emporter par nos émotions. On peut te retrouver sur Twitter sous le même nom, Crypto Sapiens on-chain, sur Blockunity pour une plateforme également que tu sur laquelle tu interviens. Vous retrouverez dans tous les cas les liens en commentaire et description. On vous invite à nous dire justement dans ces commentaires si vous trouvez ça cool comme nouveau format, si vous avez des questions en particulier pour Adrien auxquelles on répondra dans les prochains formats. Et donc, merci encore à toi d'être intervenu aujourd'hui. Et on se retrouve donc dans 15 jours pour faire le point sur tout ça.
Ça marche.
On vous souhaite une très bonne journée. Merci à tous.
Très bonne journée à tous. Merci, à bientôt.